Bonsoir, comment allez-vous? Tous les verbes en « app » prennent deux « p », excepté « apercevoir », apostrophé, apostasier, que personne ne sait ce que ça veut dire. Ces trois petits mots n'empêchent pas la règle de fonctionner, ce sont des exceptions. Tous les jardiniers que je connais n'utilisent pas de produits chimiques, excepté contre les limaces. Quelle importance, puisque chacun est le seul à l'utiliser. Seulement à partir d'un certain nombre, l'exception ne confirme pas la règle, elle la remplace. Interdiction de marcher sur les pelouses, sauf pour moi. Si je suis la seule à m'y installer, l'herbe ne sera pas piétinée. Interdiction de faire pipi dans la piscine, etc. Quelle est la différence entre les autres et nous ? Les autres, ça ne les dérange pas de traverser un vestiaire de piscine tout mouillé ou de rester debout sur le macadam plutôt qu'assis dans l'herbe. Les autres, les ennuis moins. C'est bien pour ça qu'ils doivent respecter les règles. Par exemple, ne pas construire au bord de la mer en nous bouchant notre vue à nous. Nous qui aimons voir la mer. Les autres n'ont qu'à regarder autre chose. La télé, par exemple, ils ne verront même pas la différence. Alors que viennent-ils nous embêter, les autres, nous ici, qui sommes ici chez nous? Moi, j'aime les gens. Mais les autres sont-ils des gens?
Bonjour, je m'appelle François. Je voudrais savoir pourquoi certains noms masculins, comme lycée, ont une terminaison féminine en « e-e ». Merci, bonne soirée, les petits bateaux.
Merci François, un grand auditeur des petits bateaux. Donc François vous demande, Marie-Dominique Poré, professeur de français, latin, grec, auteur de la grammaire française pour les nuls chez First Edition, pourquoi lycée prend un nœud? Quand j'étais enfant, on nous faisait apprendre par cœur lycée, musée, caducée, prennent un nœud.
Vous les avez, il y en a même d'autres, il y a lycée, musée, hyménée, spondée, pritanée, caducée. Tous ces mots, en fait, pourquoi est-ce qu'ils prennent « e » ? Parce qu'effectivement, le monsieur a tout à fait raison, la désinence du féminin, c'est bien un « e ». Bon, ce « e », en fait, il vient au départ d'une désinence en « ya », qui, elle aussi, remonte au latin. Sur la racine, par exemple, « bonne », « b-o-n », on faisait « bonus » pour le masculin, et « bona » pour le féminin. Et le « a » vient d'un « ya ». Ce « ya », à fur et à mesure qu'il a été utilisé, il s'est érodé, le son s'est un petit peu affaibli, il s'est amui. Et donc, c'est la raison pour laquelle le « a » s'est transformé en un « e » tout sourd. Donc, c'est vrai que le « e » est la marque du féminin. Mais il y a des mots en « e » qui ne sont pas féminins. Si je dis « le sable », le mot « sable » n'est pourtant pas un mot féminin.
C'est juste.
Inversement, il y a des mots effectivement « et e », et c'est le cas que pose le François là, c'est effectivement ces mots en « et e » sont masculins. Alors, pour tous ces mots-là qu'on vient de citer, hein, « hyménée », »,« musée », »,« gynécée », etc.
Il n'y en a pas tellement en fait.
On a quand même une petite série de une dizaine, hein. « Coryphée », »,« caducée », »,« pritanée », »,« spondée », »,« empirée », »,« protée », »,« sigisbée ». Bon, pour tous ces mots-là, la règle, c'est parce qu'en fait, ils viennent tous ceux-là d'un suffixe grec en « aios », qui a donné en latin « aeus », et le « aeus » en transcription ne pouvait pas donner « e », tout simplement. Donc, il donne « lui » et « e ».
D'accord.
Donc, en fait, ils viennent tous de diphtongues. Et parce que c'était des diphtongues dans les mots latins, et se sont transformés en un « e ». Donc, ce n'est pas vraiment un vrai « e » de féminin à la fin.
C'est un « aios ».
C'est un « aios » du grec.
Bidouillé.
C'est un « aeus » du latin « bidouillé », comme vous dites. Et c'est ça qui a donné, effectivement, les formes définitives en « e », en français.
Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants petits et grands. Pose une question sur notre répondeur et nous trouvons un ou une spécialiste pour leur répondre. Le numéro de notre répondeur, c'est le 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Angèle et j'ai 10 ans. Je voudrais savoir quand on supprime un fichier d'un ordinateur, où il va. Merci.
Ça, c'est vrai. Merci, Angèle. Où va-t-il, Michel Baudouin-Lafont? Vous êtes professeur d'informatique à l'Université de Paris-Sud.
Alors, Angèle, j'ai cru entendre un petit accent québécois dans ta question.
C'est joli.
Alors, les fichiers sur l'ordinateur, ils sont stockés dans ce qu'on appelle un disque dur. Bon, aujourd'hui, c'est plus vraiment un disque, mais c'est pas grave. Ce disque dur, c'est un peu comme un grand parking. Et lorsque l'on veut ranger un fichier, on lui trouve une place dans le parking, on le met à cette place et on lui donne un nom pour se rappeler où on l'a mis. Mais dans un parking, si on veut libérer la place, si on veut supprimer une voiture, on appelle la fourrière qui enlève la voiture. Dans un ordinateur, si on veut supprimer un fichier, on n'a pas besoin de l'enlever. On va juste marquer « ce fichier n'existe plus ». Et donc, supprimer un fichier, en fait, ça ne le supprime pas. Simplement, ça veut dire que si on a besoin de ranger un nouveau fichier, eh ben, on va pouvoir utiliser une place de parking qui est occupée par un fichier dont on a dit qu'il était supprimé.
Ce qui veut dire, Michel Baudouin-Lafont, que la place est libre, mais pas que ce qui occupait cette place auparavant n'existe plus.
Absolument. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des logiciels qui vous permettent de récupérer des fichiers que vous avez effacés, que vous croyez avoir effacés, parce qu'en fait, ils sont toujours là. Simplement, la place qu'ils occupent est disponible, mais elle n'est pas forcément réutilisée. Donc, s'il n'a pas été réutilisé, l'information est toujours là et l'ordinateur peut la récupérer.
C'est merveilleux et inquiétant, ce qui voudrait dire que finalement, les choses ne se perdent jamais.
Absolument. Alors, c'est inquiétant parce que... Alors, c'est rassurant parce que, effectivement,
oui,
quand on a perdu quelque chose, on peut parfois le retrouver. C'est inquiétant parce que si vous vendez votre ordinateur, vous mettez tout à la poubelle en croyant avoir fait le ménage, en quelque sorte. Mais en fait, non, l'acheteur peut vraiment récupérer tous vos fichiers.
On ne peut pas brûler les papiers, comme on
dit. Alors, il existe effectivement des logiciels, ou parfois, ça fait partie même du système d'exploitation, une fonctionnalité qui permet d'effacer pour de vrai. Où on va aller vraiment enlever les voitures du parking, si j'ose dire, enlever les fichiers pour de bon, en les remplaçant par des zéros partout, puisque c'est de l'informatique, pour dire il n'est vraiment plus là. Quoique même là-dessus, en fait, des services spécialisés peuvent encore aller récupérer de l'information parce qu'il y a toujours des traces qui restent. Chris.
Si vous suivez un petit peu l'actualité judiciaire, on lit ou on entend souvent que des gens se font, entre guillemets, prendre parce qu'on a récupéré leurs fichiers.
Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elles rient de bonté. Tic, tic, tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? T'aimes, dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Mes amours dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachume. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps menti entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi?
C'était Christine and the Queens, que nous appelons maintenant Chris. Damne, dis-moi.
Les petits bateaux sur France Inter.
Le physicien André Brahic nous a quittés il y a 2 ans et nous l'aimions beaucoup au petit bateau. Nous avons quelques questions qu'il nous reste de lui et c'est toujours émouvant et plaisant de l'entendre.
Bonjour, je m'appelle Paul Victor, j'ai 6 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi Uranus et Neptune sont des planètes jumelles. Au revoir.
6 ans et demi, André Brahic. Est-ce que Victor, du haut de ses 6 ans et demi, a raison en parlant de planètes jumelles, Uranus et Neptune?
Alors en fait, Paul-Victor est curieux, il pose la bonne question, mais c'est pas tout à fait vrai. Simplement, ce qui se passe, c'est que ces planètes que sont Uranus et Neptune sont les plus éloignées du système solaire. L'une, Uranus, est 20 fois plus loin du Soleil que la Terre, et l'autre, Neptune, est 32 fois plus loin du Soleil que la Terre. Elles ont toutes les deux à peu près la même taille, à peu de choses près, un diamètre de 50 000 km. Elles sont toutes les deux composées essentiellement d'hydrogène et d'hélium, sont des boules de gaz. Toutes les deux sont très froides, évidemment, sont très loin. Et toutes les deux ont été formées un peu dans les mêmes conditions. Donc, vu de loin, on a le sentiment qu'il s'agit de deux jumelles. Mais je vais rappeler l'histoire. La Terre et Vénus sont deux planètes de la même masse, de la même densité, de la même taille, à peu près au même endroit, Vénus un peu plus près du Soleil, on les a longtemps appelées des planètes jumelles. Et quand on va sur place, c'est le contraire. La Terre est un endroit agréable, la planète bleue, on peut trouver des endroits merveilleux pour vivre. Sur Vénus, la pression au sol est de 100 atmosphères, on est écrasé, la température est de 400 degrés, on est frit complètement, on y respire du dioxyde de carbone avec un peu d'acide chlorhydrique et sulfurique dans l'atmosphère, c'est pour donner du goût, je dirais. Donc c'est l'horreur. Eh bien, Uranus et Neptune, formés loin du Soleil, donc là où il n'y a pas beaucoup de matériaux, formés dans un endroit très froid, donc on y a des glaces de méthane, d'eau, etc., ou d'ammoniac, sont formés dans les mêmes conditions. Vu de loin, on pensait que c'est la même chose. Or, ces planètes, nous avons visité. J'ai eu le bonheur d'être membre de l'équipe d'imagerie de la sonde Voyager qui, en 1986, a survolé Uranus et en 1989, a survolé Neptune. Et en fait, elles sont très différentes. Uranus, en gros, a un axe de rotation qui est confondu avec le plan de sa trajectoire, de son orbite. Un petit peu, il tourne comme un cerceau quand on voit. C'est-à-dire que ses satellites et ses anneaux tournent perpendiculairement au mouvement d'Uranus. C'est très particulier. Uranus a un climat, un endroit où il fait jour pendant 42 ans. Et il fait nuit pendant 42 ans.
Non.
On pourrait imaginer que c'est froid d'un côté, c'est chaud. Pas du tout. La température est la même, l'hiver et l'été, la nuit et le jour, l'atmosphère égalise tout ça. Donc c'est un monde très particulier que nous avons survolé rapidement en 1986 et je rêve d'y retourner. Quant à Neptune, où j'ai eu le bonheur de trouver des anneaux en 1984 à l'époque, nous l'avons survolé en 1989. Neptune est très différent. C'est un corps qui est très actif. Il y a des orages, des ouragans, des tempêtes que nous avons suivis. Son axe de rotation est complètement différent. Il est légèrement incliné sur le plan d'orbite. Il y a des satellites Triton, qui est très étonnant, avec des geysers, etc. Et des anneaux complètement différents de ceux d'Uranus. Ces deux systèmes, vus de près, sont en fait très différents.
On dirait vraiment de la science-fiction. André Brahic, que vous soyez un grand merci pour tout le temps que vous avez consacré au petit bateau. Moi qui vous parle, j'ai très bien connu les disques vinyles 33 tours ou 45 tours, et même chez mes grands-parents, il y avait des 78 tours.
Bonjour, je m'appelle Clémence, j'ai 7 ans, je voudrais savoir comment s'appelle celui qui a fait le premier disque? Merci, au revoir.
Comme nous trouvions que c'était un record, ce premier disque, Clément, nous avons demandé à Justine Tommy, qui est juge officielle française pour le Guinness World Records, qui a fait le premier disque, demande Clément. Alors, qu'est-ce que Clément entend par premier disque?
Oui, bonjour, merci Clément pour ta question. Alors c'est vrai, comme tu es un peu jeune, je ne savais pas ce que tu voulais dire par premier disque. Donc du coup, moi ce que j'ai recherché pour toi, c'est le premier compact disque qui a été jamais produit. Donc en l'occurrence, le premier compact disque commercial a été produit il y a plus de 30 ans.
Attends que ça ?
Voilà, tout à fait, le 17 août 1982. Et alors il s'agissait à l'époque d'un enregistrement datant de 1979 du Chilien Claudio Haro qui jouait les valses de Chopin. Comme il s'agissait d'un événement majeur à l'époque, il a été invité à l'usine de Langenhagen pour appuyer sur le bouton d'enregistrement du compact disque.
Alors c'est fou ce que c'est ancien, je pensais pas que ça avait 30 ans le compact disque. Donc finalement on pourrait vous demander quelle est la commercialisation?
Exactement. Alors en fait, la commercialisation est arrivée très rapidement après, puisque le premier album à avoir été produit et publié au format CD était l'album de Billy Joel, 52nd Street, ça s'appelait, qui est arrivé sur le marché en même temps que le lecteur CD Sony CDP-101. Et donc c'était le 1er octobre 1982 au Japon cette fois.
Le compact disque est une invention 50-50 du néerlandais Philips et du japonais Sony.
Exactement.
À propos de disques, je me suis régalée à la lecture de la vie de Leonard Cohen, I'm Your Man, écrit par Sylvie Simons, qui est une journaliste musicale aux éditions de L'Échappée. Et ce qu'il y a de très amusant, c'est que les prénoms des chansons de Leonard Cohen, en lisant cette biographie, on apprend que ce ne sont pas que des prénoms dans des chansons, ce sont des vraies personnes.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, "All men will be sailors then until the sea shall free them." But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Les modes sont agaçantes à force d'entendre parler et reparler et reparler toujours des mêmes choses. Et parfois, les modes sont excitantes. Et je trouve qu'en ce moment, la mode des arbres est excitante.
Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 7 ans. J'aimerais bien savoir quel arbre vit le plus longtemps. Merci.
Bonjour, je m'appelle Olivia, j'ai 11 ans. Et j'aimerais savoir s'il reste encore des arbres qui datent de la préhistoire. Et si oui, quel âge ils ont et où ils se trouvent?
Gabriel et Olivia. Ernst Zürcher est ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences du bois à la Haute École spécialisée bernoise. Et vous êtes chargé de cours à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. On l'a compris, vous êtes suisse. Votre dernier livre s'appelle « Les arbres, entre visibles et invisibles ». Il est édité chez Actes Sud. La durée de vie des arbres, demandent Gabriel et Olivia.
Oui, les arbres les plus vieux, combien d'années? Alors là, on a une mesure très précise à l'année près, parce qu'il s'agit d'un arbre qui fait partie d'un groupe d'arbres dans les montagnes rocheuses, dans les White Mountains, à l'intérieur de la Californie, dans un endroit très difficile pour la croissance, à 3000 mètres. C'est des arbres qui sont à la limite du possible pour la vie en tant qu'arbre. Et ces arbres ont une croissance extrêmement lente et ils ont maintenu l'ensemble de leur tronc intact. Le bois ne s'est pas du tout décomposé à l'intérieur. Et c'est ainsi qu'on peut faire des carottes de sondage et mesurer le nombre de cernes annuelles sur une telle carotte de sondage. Et on a repris du matériel qui avait été prélevé il y a quelques dizaines d'années et on l'a réanalysé. Et les chercheurs ont trouvé, ils ont fait sauter le record précédent qui était de 4845 ans. Et maintenant, le nouveau record sur ces mêmes arbres, c'est un nouvel arbre maintenant qui vient d'être trouvé. Il a 5062 ans. Donc, c'est un message assez impressionnant parce qu'on a affaire ici à des arbres qui ont des conditions de vie extrêmement difficiles. Et c'est un message extrêmement enrichissant pour l'homme aussi. C'est une forme d'éloge de la lenteur. Ne soyons pas trop stressés, ne soyons pas trop pressés. Faisons les choses lentement, on les fera beaucoup plus longtemps que si c'est trop vite.
L'éloge de la frugalité aussi, parce que s'il est à 3000 mètres, il ne doit pas avoir non plus énormément de choses à manger dans le sol.
Exactement. À cause de des conditions difficiles, une période de végétation très courte, un sol extrêmement difficile, très pauvre en nutriments, très peu d'humus. Donc l'arbre, il a la possibilité de faire quelques cellules par année, quelques millimètres ou fractions de centimètres de bout de tige, et ça pendant une durée extrêmement longue. Donc par rapport à la préhistoire, qu'est-ce que ça représente? On définit la préhistoire comme l'époque de la vie de la communauté humaine avant le développement de l'écriture. Et ça, c'était en Mésopotamie, 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc, ces arbres qui ont 5000 ans, ils ont exactement touché du bout de leurs racines, de leur première pousse, la fin de la préhistoire. Mais ça, c'était en Californie, c'était aux États-Unis, alors que l'écriture s'est développée en Mésopotamie de l'autre côté du monde. Donc, ils ont encore vécu très très longtemps en période préhistorique américaine, mais c'est de toute façon impressionnant. Les pyramides d'Égypte, par exemple, sont estimées à 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc ces arbres, 3000 ans avant notre ère, avaient déjà pas mal de siècles derrière eux lorsqu'on a construit les pyramides.
Cet arbre qui a donc 5062 ans, c'est ça? Il est énorme quand même?
Non, alors ça c'est impressionnant. Ils sont pas tellement grands que ça, ils sont extrêmement tourmentés. Mais là, on a un autre candidat au maximum d'âge, c'est l'if. Mais l'if a un problème, c'est que l'intérieur du tronc, avec le temps, pourrit. Donc on ne peut pas faire de carottes de sondage où on aurait l'intérieur et jusqu'au centre la possibilité de compter le nombre de cernes. Mais là, des estimations pour des ifs européens qui ont été mis sous protection humaine, parce que c'était des arbres sacrés, mais qui ont un diamètre énorme, c'est des mastodontes, pas très hauts, mais en diamètre, qui se trouvent en Angleterre, en Écosse, en Irlande, aussi en Normandie. De l'un, on suppose, le grand connaisseur des ifs, qui pourrait avoir aussi 5000 ans d'âge.
Ernst Zürcher parle beaucoup des ifs dans son livre. Pour réécouter cette incroyable réponse, eh bien vous pouvez aller sur franceinter.fr à la page des petits bateaux. Nous nous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, c'est Pauline Laverdure, Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Noël Bréham et notre homme Jean-Baptiste Audibert.